Chapitre 22. Un oiseau à une aile. Gustave a probablement rêvé de Fuego cette nuit. Il l'a déjà évoqué avec Eric au petit déjeuner. Ils ont laissé partir Valentine à l'école. Le premier mercredi qui suit le grand jour est toujours propice au réajustement de dernière minute, une fois la rentrée éprouvée. La maîtresse redispose et compose pendant que les enfants se repose. Les deux hommes ont ouvert les deux battants de l'énorme porte en bois de la grange, laissant apparaître la bâche rouge qu'ils avaient pris soin de remettre la veille. Ils attendent qu'Annanina ait fini de prendre son petit déjeuner pour faire ce petit tour dans la cour et peut-être sur le chemin qui part derrière la maison. D'un commun accord, ils décident de voir si le bruit du moteur fait venir la fillette qui termine ses tartines en lisant une bande dessinée. Gustave s'installe sur le siège passager, introduit la clé dans le Neyman et sourit à Eric en guise d'autorisation de la tournée. Ce dernier, un peu intimidé par la situation, ose à peine poser les mains sur le volant. Il vérifie le point mort et met le contact, le pied sur l'accélérateur. Elle démarre au quart de tour dans un ronronnement fort sympathique. Lorsqu'il se tourne vers Gustave, il le voit les mains posées sur le tableau de bord, les yeux fermés et un sourire béat sur les lèvres. Manifestement, l'homme éprouve un plaisir certain à retrouver ses sensations.
« Tu vois, mon gars, j'ignore ce qu'on ressent quand une femme vibre sous des caresses, mais je ne dois pas être bien loin de le savoir à cet instant précis. »
« Est-ce bien raisonnable de comparer ?»«
Non, mais on s'en fiche. On est entre nous. Et curieuse comme je connais ta fille, elle ne va pas tarder à répliquer. »
À peine a-t-il terminé sa phrase que la porte de la cuisine s'ouvre et laisse surgir Annanina qui court en direction de la Fuego. Eric a baissé la vitre et l'interpelle.
« Où allez-vous donc ainsi, mademoiselle ?»«
Je vous retourne la question, cher monsieur. » »«
Au bout de la cour. Je vous y emmène ?»
Annanina s'installe à l'arrière, boucle la ceinture de sécurité et sourit à Gustave qui s'est retourné pour vérifier qu'elle était bien calée.
« Elle te plaît, la nouvelle voiture de ton papa ?»«
C'est ta nouvelle voiture, papa ?»«
Ça se pourrait, oui. Tu voudras que j'aille te chercher à l'école quand Valentine ne rentrera pas tout de suite après la classe ?»«
Ben oui, elle est trop belle !»«
La vérité sort de la bouche des enfants !»
conclut Gustave, fier comme un paon. Le petit tour est probant pour les trois occupants, heureux du marché conclu. Il ne reste qu'à prendre rendez-vous pour le contrôle technique et à régler les papiers administratifs et l'assurance. Eric se réjouit à l'idée de disposer d'un véhicule. La roulotte endosse doucement le statut de chambre à coucher et les chevaux installés sur le Mont-Saint-Jean, au milieu du troupeau de chèvres, semblent plutôt satisfaits de leurs nouvelles conditions. Gustave tient à guider le conducteur pour garer la voiture en marche arrière dans la grange, puis il annonce qu'ils ont affaire avec Annanina. Celle-ci n'a pas besoin de plus d'explications pour filer dans la maison chaussée des baskets, pendant que Gustave prépare un peu de matériel dans sa vieille carriole à deux roues. La gamine s'y installe, enthousiasmée par ce moyen de transport inédit, même si elle sait qu'elle devra descendre et l'aider à tirer la charrette au plus fort de la pente, ce qu'elle fait peu de temps après. Elle ne boude pas le plaisir d'y sauter à nouveau dès que le chemin redevient plat, malgré la courte distance qu'il leur reste avant de traverser le pré cabossé. Cela s'avère chaotique, mais les grandes roues bien gonflées absorbent la plupart des bosses et des creux dissimulés dans l'herbe haute. Gustave observe Annanina qui le précède dans la descente vers l'arbre. Elle ouvre grand les mains pour caresser ses herbes hautes, dont la tige rouge aboutit à un bouquet de grains blancs qui danse sous le vent. Le vieil homme le fait aussi à chaque fois qu'il a les mains libres, et il pense à tous ces gens qui oublient de se connecter à la nature, sous prétexte que ce sont des trucs de gamins. La petite a pris de l'avance. Elle est déjà assise sur la première branche dans le siège en écorce, quand Gustave gare la carriole au pied de l'arbre.
« Bon, alors, parlons de choses sérieuses. Il faut qu'on fasse des plans. Et pour ça, il faut que tu grimpes. Tu vas me dire au fur et à mesure où sont les branches, et moi je reste en bas et je note. Tu veux ?
Évidemment. On va devoir en couper ?
Couper des branches pour faire la cabane ? Sarcophage !
Tu te moques de moi ?
Répond-elle en faisant semblant d'être fâchée.
Oui, un peu, avoue Gustave amusé. Mais c'est pour de rire.
Tu sais, toi c'est différent, mais normalement, je déteste qu'on se moque de moi.
Pourquoi donc, ma petite ?
Parce que ça veut dire que je suis nul ou ridicule.
Ce n'est ni grave de faire des erreurs, ni grave d'en rire.
Oui, mais après les autres nous jugent.
Tu t'en fiches du regard des autres. On a tous un nez de travers, la voix trop haute, une oreille décollée, des kilos en trop, les cheveux trop fins, trop épais, trop raides ou trop bouclés. Et que dire de la vitesse à laquelle on court, de la façon dont on dessine, dont on chante, danse, rit. Tu vois, on est tous différents et personne n'a le droit de classer ce que tu es ou ce que tu fais dans la case bien ou pas bien.
Pourtant, c'est ce qui arrive.
Oui, et ça arrivera toujours, parce que plein de gens n'ont pas compris ce qui était important. Mais tu n'es pas responsable de ce que disent les autres. En revanche, tu es responsable de comment tu l'entends, et tu peux décider de t'en fiche complètement.
J'essaie, mais c'est plus fort que moi.
Alors, la prochaine fois que tu as peur de ça, pense à notre sarcophage et dis ma phrase dans ta tête. Ce n'est ni grave de faire des erreurs, ni grave d'en rire.
Papa aussi, je sais qu'il a peur de ce que vont penser les autres à propos de notre vie.
Votre vie est très différente parce que votre histoire est très particulière. Tu ne peux pas juger un oiseau qui ne vole pas comme les autres parce qu'il a un bout d'aile en moins.
Ben non, c'est pas de sa faute, et il fait de son mieux.
Pareil pour ton papa, et pareil pour toi. Ne laisse personne critiquer ta façon de voler. Promis ?
Promis.
Bon, on le fait ce plan ? Tu as besoin de la corde à nœuds ou tu arrives à grimper toute seule ?
Je sais voler sans corde jusqu'à la branche au-dessus.
Après lui avoir lancé le maître ruban, Gustave s'installe au pied de l'arbre, saisit son carnet et son crayon et note les mesures et la disposition des différentes branches. Il lui explique qu'en hauteur, comme elles sont plus souples, ils pourront les dévier un peu en fonction des plans, mais qu'ils tâcheront de ne pas abîmer l'arbre, ni avec une scie, ni avec des clous ou des vis. Il leur suffira de bien réfléchir à la conception, de faire tenir la structure de planche avec des cordes ou des morceaux de chambre à air, et de s'adapter à la morphologie du tilleul pour y parvenir. Il admet que si une branche venait vraiment perturber l'ensemble, il pourrait la couper proprement, car l'arbre est suffisamment puissant pour s'en remettre, cicatriser, et envoyer sa sève ailleurs.
Comme quand il manque un bout d'aile à un oiseau,
déduit Annalina.
C'est ça.
Et comme papa aussi?
Ton papa, il a perdu toutes ses plumes d'un coup. Tout ce qui le rendait léger. Mais ça repousse. Ça repousse.
Il pourra bientôt voler comme avant?
Oh, tu sais. Il manquera toujours quelques plumes. Mais même s'il vole moins haut, ce qui compte, c'est de voler. Il réapprend.
Tout en poursuivant ses notes au fur et à mesure des indications de la fillette, Gustave se dit que la vie est sacrément malicieuse d'avoir envoyé l'orage sur leur roulotte en juin. Il pense à ce que chacun peut apporter aux autres, avec ce qu'il est, ce qu'il fait, et à la richesse incroyable des interactions humaines, surtout quand celles-ci s'imbriquent parfaitement comme les pièces d'un puzzle. La foudre tombe-t-elle vraiment au hasard ?